La Bonne Graine, un podcast entièrement réalisé à la main. Hors série spéciale Semaine de l'Artisanat, en collaboration avec la mairie du 11e. Bonjour, bienvenue sur le podcast de La Bonne Graine, l'école d'ameublement de Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Barbier, bonjour.
Bonjour.
Et de Jérôme Tévigny.
Bonjour. Alors,
aujourd'hui, nous allons parler de transmission dans l'artisanat. Jérôme Tévigny, je vous laisse me présenter rapidement votre parcours.
Donc, je suis le directeur général du CFA de l'ameublement à La Bonne Graine, qui est une vieille institution du 11e arrondissement et de Paris depuis 156 ans. Nous formons des apprentis dans les métiers de l'ameublement, 13 disciplines, les principales, l'ébénisterie, la tapisserie, la dorure à la feuille, l'encadrement, et aussi des métiers plus rares comme l'emballage professionnel, donc comment on fait voyager les œuvres d'art, ou alors la menuiserie en siège, la rentreture, qui est la restauration de tapis ou de tapisserie. Pour ma part, je suis un ancien apprenti de l'école. Je suis ébéniste et j'ai eu la chance de faire un peu tous les parcours, tous les postes qui nous intéressent aujourd'hui. J'ai été apprenti moi-même il y a un peu plus de 25 ans. Je suis un ancien maître d'apprentissage, un ancien formateur et aujourd'hui à la direction, j'ai la chance de voir un petit peu toutes les disciplines, tous les métiers, tous les profils qui se présentent aussi autour de nous. Donc aussi bien les jeunes en apprentissage que les un peu moins jeunes en reconversion professionnelle parce que c'est une partie aussi de l'activité qu'on fait à l'école. Je rencontre les chefs d'entreprise, les maîtres d'apprentissage, les salariés, puis aussi évidemment tous les correspondants, les partenaires institutionnels qui font la vie de l'école à mes côtés.
Aujourd'hui avec nous, nous avons Sébastien Barbier qui est un ancien élève. Alors présentez-nous un peu votre parcours.
Alors moi, Sébastien Barbier, je suis artisan d'art aujourd'hui, sculpteur sur bois d'aurore à la feuille, spécialisé dans l'ornementation. J'ai effectué un apprentissage de dorure au sein de La Bonne Graine pendant 3 ans. Ensuite, je suis resté salarié dans mon entreprise pendant 4 ans et j'ai entamé un nouvel apprentissage en sculpture sur bois, toujours au sein de La Bonne Graine, pendant 3 ans et depuis 4 ans, je suis installé à mon compte.
Alors, vous avez commencé par la dorure. Comment vous en êtes arrivé à faire de la dorure, qui est un métier quand même relativement rare, que peu de gens connaissent? Qu'est-ce qui vous a fait faire de la dorure?
À la base, en fait, on avait un objet de famille. Un vieux baromètre en bois doré. Et pour l'anniversaire de ma mère, mon grand-père a fait restaurer le tube au mercure et a fait en grande partie redorer le baromètre qui était assez usé. Et après ma 3e, je voulais pas continuer forcément des études classiques et je me suis orienté plutôt sur la dorure. J'ai eu ce goût-là en 3e.
En 3e, très jeune du coup.
Voilà, j'ai fait la fameuse découverte de Versailles et j'étais complètement admiratif devant les voussures. Les voussures, cet élément qui renvoie la lumière, qui est une ornementation typique de la France. Et j'ai effectué mon stage chez des staffeurs. Mais je me suis rendu compte vraiment que c'est la partie dorée qui me plaît le plus. Donc j'ai entamé, juste après ma 3e, l'apprentissage de dorure. Et en pratiquant la dorure, j'ai eu le goût du support qui est sous la feuille d'or, qui est le bois. Donc j'ai fait ensuite l'apprentissage de sculpture sur bois. Et il m'a fallu 4 ans pour tanner à mon ancien patron, Michel Guillanton, pour qu'il accepte de me prendre en apprentissage.
Pourquoi ce choix de l'alternance du coup? Alors je sais qu'il y a assez peu de formations de dorure, certes, mais l'alternance c'est quand même une formation qui est assez exigeante parce que vous êtes à moitié à l'école, à moitié en entreprise, il faut trouver un patron, c'est un rythme quand même particulier, surtout aussi jeune. Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Alors effectivement c'est pas facile de démarrer juste à 14 ans l'apprentissage, mais ça donne tout de suite les pieds dans le plat. On est chez un artisan, on sait comment ça se passe, on a des horaires à respecter. On a un salaire, on a une gestion, donc on a une autonomie à avoir assez jeune. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Et le fait d'être en apprentissage, c'est-à-dire qu'on n'est pas, perdu à la sortie de l'école, parce qu'on est déjà dans le milieu professionnel. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, d'être déjà au sein d'une société, de savoir comment elle fonctionne. Par rapport aux autres écoles où on a une formation, quand on est diplômé, il n'y a plus rien derrière. On est un peu en roue libre, alors qu'avec l'apprentissage, on a quand même déjà un regard qui est beaucoup plus loin sur notre métier, sur comment il doit être pratiqué au quotidien. Et on a quand même un accompagnement non seulement de l'école, mais aussi des entreprises dans lesquelles on a été.
Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est caractéristique de l'apprentissage et à plus forte raison au CFA de la Bonne Graine, où on a 13 métiers, comme je le disais précédemment, et on incite nos jeunes, nos apprentis à se rencontrer pendant l'apprentissage. On parle souvent de se créer un réseau avec le côté bienveillant du terme, hein, c'est de rencontrer les professionnels, de les connaître, de pouvoir se constituer son carnet d'adresses. C'est aussi une école qui est gérée par une association qui est composée de professionnels des différents métiers qu'on enseigne. Donc on est effectivement, comme le dit Sébastien, confronté en permanence à la réalité de l'entreprise, à la réalité de la production qui va être concrète et qui fait que quand on sort de l'école, on est tout de suite intégrable dans n'importe quel type de structure.
Le lien qu'on développe du coup en étant en alternance est assez particulier et avec l'école et avec son maître d'apprentissage. J'ai moi-même été ancienne élève de l'école et je sais que c'est un lien très fort. Comment vous décririez ce lien qui se tisse entre un formateur et son élève, un apprenti et son maître d'apprentissage ?
Généralement, ceux qui enseignent ont déjà été artisans, comme monsieur Thévenis. Donc, c'est pas uniquement transmettre le métier, c'est transmettre aussi des valeurs d'artisan, de savoir comment se comporter avec les clientèles, comment réagir face à des restaurations qui peuvent être assez délicates, en ayant un regard beaucoup plus large.
C'est vrai qu'on parle de métier passion. Alors, c'est un terme qu'on entend souvent, qui est des fois pas utilisé toujours de la bonne façon. En tout cas, on transmet toujours ce goût pour le métier, ce goût pour les objets de belle qualité, pour un statut, en fait, quand on est artisan, quand on est professionnel de ces métiers-là. On le vit tous les jours, hein, et on aime bien reprendre un petit peu la formule de dire « je suis artisan, je fais pas quelque chose comme on ferait une tarte, par exemple. Je vis ma condition d'artisanat, en fait, les jours. Je suis d'horreur, je suis ébéniste. » C'est quelque chose sur lequel on est soucieux toujours d'insister pour montrer que c'est une condition permanente. Et quand Sébastien utilisait le mot « j'ai tanné mon ancien maître d'apprentissage pour revenir chez lui », c'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté de séduction, de montrer qu'on est vraiment convaincu dans son choix. Et c'est un constat qu'on fait régulièrement à l'école, c'est de voir, quel que soit le métier ou l'âge dans lequel les apprentis s'inscrivent dans notre structure, c'est surtout cette motivation sans faille. Les choix de métier sont déjà établis. En plus, on aime bien, nous, entre formateurs, se réjouir de dire « tiens, il y a un peu des gueules de métier, on est fait pour être plutôt d'horreur ou plutôt ébéniste ou plutôt tapissier ». C'est vrai qu'il y a des caractères qui vont avec chaque profession. Enfin, c'est pas une science exacte, hein, bien sûr, mais on a de manière générale, unanime, tous le même goût pour ça et l'envie qui est permanente. Donc, il n'y a pas d'erreur de casting, généralement, dans ces formations-là.
Sébastien, maintenant, ça fait un certain temps que vous exercez dans ce domaine de la sculpture et de la dorure. Vous êtes passé de l'autre côté, entre guillemets, un peu de la barrière. Maintenant, vous êtes à votre compte, vous avez votre atelier dans la cour de l'industrie, dans le 11e. Est-ce que la pédagogie a un petit peu changé de camp aujourd'hui ?
Alors, un bon artisan, c'est pour moi, c'est vraiment la réussite. Donc la réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et surtout beaucoup de faire savoir. Alors j'ai certes un petit peu de savoir, un petit peu de savoir-faire, mais il me manque encore beaucoup de faire savoir, je pense. Alors je prends effectivement des stagiaires. Généralement, je les prends au début, pour les confronter vraiment au métier, parce que par exemple la dorure, on s'imagine que c'est poser juste la feuille d'or et tout ça. Non, en fait c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. La pose de la feuille d'or ne représente qu'une étape, il y a une vingtaine d'étapes à réaliser. La dorure, la pose de la feuille d'or, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, hein. Donc c'est un métier qui est long à apprendre, qui est compliqué, où on peut être déçu dès le début en se disant bah, on pose pas d'or, on fait pas ça, c'est partout sur le métier de dorure. Non, pas vraiment, non, il y a toutes les étapes à réaliser avant. L'idée de prendre quelqu'un avant qu'il démarre un apprentissage, c'est de le confronter directement au métier, de savoir si oui ou non ça lui plaît. L'apprentissage est quelque chose de compliqué et de long à acquérir, hein, quand on va dans nos métiers, aussi bien pour le jeune qui démarre que l'entreprise qui va le prendre. Il n'y a rien de pire que de commencer un apprentissage et de l'arrêter en plein milieu. Ça a été une perte de temps pour l'école, pour le jeune et pour la société qu'il aura pris au sein de son atelier, car au final, les places sont chères. Il y a toujours plus de demandes que d'offres dans l'apprentissage. Et prendre quelqu'un qui ne continuera pas dans cette activité, finalement, c'est avoir pris la place de quelqu'un qui aurait pu être motivé. Ça a été le cas pour moi. J'ai eu drôlement de mal à trouver un apprentissage en dorure. En milieu d'année, malheureusement, ma société a fermé. Donc, il a fallu que je retrouve un deuxième patron au cours de mon apprentissage, ce qui a été très difficile. Donc, j'ai vraiment été confronté à toutes ces difficultés. C'est pour ça qu'il faut choisir le bon artisan. Il faut aussi choisir le bon apprenti.
Oui, chaque entreprise a aussi ses spécificités, ses formats, ses caractères. Il y a des compatibilités qui sont là, il y en a qui ne marchent pas aussi. D'où l'intérêt, effectivement, de passer du temps, de rencontrer, de faire la démarche, de se présenter en personne, d'aller tâter, entre guillemets, un peu l'ambiance de chaque atelier pour voir si c'est compatible ou pas. Parce qu'effectivement, la dorure est un métier assez méconnu. Et je suis d'accord que les gens, souvent, s'arrêtent un peu à la feuille d'or. Alors que c'est la cerise sur le gâteau. Nous, en tapisserie, on a le problème avec le tissu, qui est une des dernières étapes. C'est pas la moins intéressante, mais c'est une des étapes parmi les 20 d'autres. Donc, c'est pas celle-ci qu'il faut regarder en premier. Et c'est bien, du coup, de se confronter dès le départ à la réalité de ce que c'est. Et d'être sûr qu'on a envie de mettre les mains dans le cambouis et qu'on n'est pas juste attiré par une belle image et par l'idée qu'on se fait un peu déformer parfois de certains métiers.
Et c'est aussi en ayant cette idée précise qu'on est mieux orienté. Hein, le recul, en fait, est nécessaire aussi bien pour l'entreprise que pour l'apprenti qui souhaite y rentrer. Et il y a vraiment une pédagogie dans l'explication de ce qu'est un métier. Nous, demande souvent aux jeunes quand ils arrivent l'idée qu'ils se font du métier, et ils peuvent pas savoir avant d'avoir commencé ce que sera évidemment tel ou tel métier. Donc chacun s'en fait une idée qui peut être très différente d'un individu à l'autre, et c'est à nous de préciser en fait au fur et à mesure du parcours dans quelle spécialité, dans quelle tendance on va plutôt se reconnaître. Et il y a vraiment ce souci de vraiment se trouver dans la discipline qui nous correspond. Alors Sébastien est très modeste quand il dit qu'il a un petit peu de savoir, il en a beaucoup, et on sait pour l'avoir eu longtemps dans les murs, mais c'est vrai que des artisans comme lui, même s'ils sont jeunes, ont ce recul pour très bien expliquer aussi quelle va être leur activité. Et c'est vrai que ça sera une chance pour les apprentis ou les stagiaires qui pourront aller dans un atelier comme le sien, d'avoir quelqu'un qui saura les guider exactement dans ce qu'est le métier, sans se faire de fausses idées, sans être simplement dans un métier rêvé en fait, mais dans un métier concret qui soit applicable au quotidien.
Je voulais aborder un autre pan de la transmission, qui est aussi celui qu'on fait aux gens qui ne veulent pas forcément faire ce métier, mais qui veulent faire appel à vos savoir-faire, justement. Parce que la clientèle, aujourd'hui, se tourne de plus en plus vers l'artisanat, et c'est une très bonne chose. Mais votre métier est méconnu, et il faut parfois expliquer aussi ce qu'on va faire aux clients pour qu'ils comprennent un petit peu les délais, les tarifs, et puis ne serait-ce que l'histoire de ce qu'il va faire aujourd'hui quand il va restaurer un cadre, un objet, faire appel à vos services. Est-ce qu'il y a cette pédagogie que vous faites aussi auprès de la clientèle ?
En permanence. En permanence, je suis à expliquer l'intervention qu'il faut réaliser. Les travaux à réaliser, ceux à ne pas faire, pourquoi il y a un coût. Et j'ai toujours pour habitude, parce qu'il faut savoir que nos domaines, on n'est pas un métier de luxe. On a un métier de haut luxe. Aujourd'hui, moi, je travaille vraiment pour des grands, grands marchands, des très grands collectionneurs, des institutions, des musées. Les devis se chiffrent toujours en milliers, dizaines de milliers d'euros, voire certains à plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. C'est vraiment des sommes assez conséquentes. Et on me dit à la fin, c'est tout le temps, oh là là, c'est cher. Oui. Ah non, 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 je dis, l'artisanat d'art aujourd'hui n'est pas un métier cher. Tout simplement, moi j'explique mon taux horaire. Je travaille à 50 euros de l'heure. Quand on multiplie le nombre d'heures, on obtient un prix qui est conséquent. Mais il y a un travail qui est énorme derrière. Pour ça qu'on dit aujourd'hui, c'est cher. Non, ce n'est pas cher, au contraire. C'est à des tarifs vraiment très honnêtes, très corrects, mais ça demande du temps. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps de faire des restaurations.
Et puis il y a aussi le temps concret que vous allez passer sur un objet, et on le parlait, le savoir-faire, c'est quelque chose que vous avez développé à l'école, que vous développez encore au quotidien, on progresse toute sa vie. Hein.
Oui.
Ce temps de formation, ce temps d'apprentissage, cette expertise que vous avez, c'est quelque chose aussi qui se quantifie. Enfin, il y a aussi ce temps-là.
Ouais, il faut à peu près, donc minimum, bon, les apprentissages sont passés à 2 ans, mais 2 ans, c'est ce que j'appelle la découverte du métier. Mmh. Ensuite, il y a à peu près 8 à 10 ans de pratique du métier après l'apprentissage qui permet d'être un bon artisan.
Oui, de maîtriser complètement, voilà, d'être à l'aise. Et ça, évidemment, le client ne le perçoit pas forcément, souvent il s'arrête un petit peu aux chiffres.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a quand même tout ce savoir-faire derrière qui est long, qui a un coût. Il y a aussi les matériaux, évidemment, qui rentrent en jeu. C'est des choses qu'il faut expliquer. Et est-ce qu'il y a cette curiosité quand même aussi du client de comment c'est fait?
Généralement, oui. Généralement, les collectionneurs, ils veulent savoir. Ils y tiennent à leurs œuvres. Elles valent généralement un certain prix. Donc, ils ont un petit peu la crainte. Même moi, en me voyant, je dis, oulala, c'est un jeune, il n'a peut-être pas assez d'expérience, c'est peut-être un peu prématuré. Après, quand ils viennent voir mon atelier, ah oui, d'accord, on a compris. Un atelier qui en jette, qui a de la gueule, qui a du caractère, et surtout, voir d'autres restaurations en cours, ça les rassure. Et quand j'ai travaillé une fois pour eux, ensuite, c'est une confiance aveugle, généralement.
Oui, mais il y a ce lien de confiance qui se crée très clairement.
Toujours. Même pour venir voir le travail en cours. Ne serait-ce qu'avoir la curiosité de savoir comment c'est fait. Et généralement, j'en ai même qui prennent des notes. Quand ils ont, par exemple, des dîners, ils aiment bien expliquer en disant, voilà, c'est mon artisan qui m'a restauré ça, il a fait ça comme ça. C'est bien d'avoir l'histoire derrière. Et surtout, aussi, ce qu'ils adorent, c'est moi, je leur explique le vécu de l'objet. Certains, de temps en temps, je peux être porteur de mauvaises nouvelles, mais aussi de temps en temps de très très bonnes nouvelles. On peut m'apporter un cadre en disant, voilà, j'ai un petit cadre qui est un peu abîmé, il faudrait restaurer, bon, il a un petit peu en pâte, tout ça. C'est pas un cadre terrible, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde, je dis, bah, non, monsieur, un cadre en pâte, mais... Vous savez que ça a existé très tôt, hein. C'est pas 19e, c'est 16e italien, monsieur.
Oui, donc c'est des belles découvertes.
Donc ça peut être de très très belles découvertes. Comme de temps en temps, quand les dorures sont recouvertes de peinture dorée et que je décape et on retrouve toute la dorure à 17e dessous, c'est une vraie découverte. Et là, non seulement on fait plaisir aux gens, mais en plus, je dis attention, votre objet prend de la valeur maintenant.
Oui. Mais en plus, il a retrouvé sa splendeur d'antan et sa valeur réelle.
On a tous connu le collectionneur qui teste un petit peu son artisan pour savoir s'il a peut-être autant de connaissances que lui, ou en tout cas si on est capable de discuter. Et c'est vrai que la recherche, la documentation, c'est un point important aussi de notre activité, à plus forte raison dans la restauration. C'est vrai que un objet, des fois, on va être tenté de dire au client, ben non, en fait, celui-là, on ne peut pas le restaurer, ou on ne va pas y toucher, on ne va pas faire autant que ce que vous auriez aimé, parce qu'il faut laisser aussi son authenticité à l'objet. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être des fois des discussions qui sont importantes et qui ne sont pas forcément celles que le client, le collectionneur attendait au départ.
Et du coup, c'est un travail quand même, dans la restauration, on vient de dire, qui nécessite énormément de connaissances, des domaines très vastes, on parle de cadres 16e, 17e, des cadres qui viennent pas forcément d'ici, des cadres italiens, ça peut être des cadres anglais, ça peut être plein de choses. Comment vous cultivez ce savoir-faire? Est-ce que c'est des recherches au quotidien spécifiques à chaque objet, ou est-ce que vous continuez à vous former
Alors, l'œil se forme au fur et à mesure. On a l'étude des styles qui est classique, que l'on apprend à l'école. Ensuite, c'est en voyant quotidiennement des objets passer entre nos mains. Quand on les restaure, on les détaille. On détaille comment on fait la restauration et on apprend en faisant ce détail-là. Selon les régions ou les époques, on va utiliser plus ou moins les mêmes couleurs, les mêmes techniques, les mêmes matières, et c'est ce qui permet aussi d'authentifier un objet ou de savoir sa provenance. L'œil se fait tout au long de sa vie, j'ai envie de dire, on apprend vraiment. Pour moi, l'artisan, c'est un éternel apprenti. Hein. Tout au long de sa vie, on va apprendre. Et travaillant pour les grandes maisons de vente comme Christie's, Sotheby's, Arcurial, Drouot, la quantité de marchandises est énorme. Et en quelques années, on se fait vraiment un œil. Après, pour le bois doré, c'est un domaine qui est extrêmement compliqué. Il n'y a quasiment pas d'experts. La plupart des experts, ce sont les artisans comme moi, où on nous apporte les objets pour nous demander ce que l'on pense, en fait. Ce qu'on pense de cet objet, quel est son vécu, quelle est son histoire, quel est son caractère.
Ça vous arrive, du coup, justement, vous travaillez beaucoup avec des marchands ou des collectionneurs, ils font appel à vous avant un achat, par exemple?
Oui.
Oui, ça vous arrive?
Oui, de conseiller.
C'est plutôt chouette. Dans les coulisses des ventes.
Après, c'est vrai qu'on parlait de réseau en début d'enregistrement. Ça n'empêche aussi à l'artisan qui a un doute ou qui a besoin d'avoir un avis supplémentaire, d'aller voir son ancien maître d'apprentissage, voilà, d'aller voir son collègue.
Des confrères. C'est vrai. Généralement, on discute, oui, à plusieurs sur un objet. Et de temps en temps, on n'est pas d'accord.
Là, ça emmène des discussions enflammées qui peuvent durer. Et c'est vrai que Sébastien Barbier a la chance d'être un atelier dans le 11e, dans l'école de l'industrie, au 37 bis rue de Montreuil, tout près de son ancien maître d'apprentissage. Il y a d'autres sculpteurs aussi et d'autres artisans qui sont dans les mêmes cours. Et c'est vrai qu'il y a cette vie aussi de cours, de partage qui peut se mettre en place en bonne intelligence. Donc on bénéficie aussi de l'expérience des plus anciens. Donc c'est riche à tout point de vue. On enregistre d'ailleurs ce podcast dans le cadre de la préparation de la semaine de l'artisanat du 11e arrondissement. Et c'est vrai que les cours de l'industrie font partie des lieux qu'on cite souvent pour ces artisans et pour le travail de réhabilitation qui a été mené dans les années qui viennent de passer. Vous voulez dire un petit mot, Sébastien, sur la manière dont vous avez pu avoir l'atelier, justement? Est-ce que c'était un projet que vous caressiez depuis longtemps? Comment vous vous êtes bagarré pour avoir cet atelier si bien placé?
La sculpture, on est trop peu nombreux aujourd'hui pour être salarié dans une entreprise. Donc, à partir du moment où j'ai démarré l'apprentissage, je savais déjà que juste après les 3 ans d'apprentissage, je me mettrai à mon compte. Je suis resté pendant quasiment un an avec mon ancien patron, Michel Guillanton, en sous-location. Mmh. Et dès qu'un atelier a pu se libérer, justement un atelier qui était en face, qui était idéal, pas trop grand pour moi, donc je pouvais payer le loyer. Et il a fallu, oui, effectivement, comme dit M. Thévenin, batailler pour l'avoir, parce que c'est des ateliers qui sont assez convoités. Il a fallu prouver, en tout cas, ma bonne foi et ma motivation. Ma motivation grâce au fait que, avant l'apprentissage sculpture, j'étais salarié pendant 3 ans. Donc, j'ai pu avoir un petit peu d'argent, épargner tout ce que j'ai pu durant mon apprentissage pour mettre de côté, pour payer ce qu'on appelle le droit d'entrée. J'en ai discuté aussi avec M. Vauglin, le maire du 11e arrondissement de mon projet. Les cours ont été achetés par la mairie de Paris pour conserver l'artisanat. Je suis jeune, je suis artisan, je demande un atelier. Il faut qu'on me l'attribue. Si on n'accepte pas l'attribution d'un atelier à un jeune qui démarre son activité et qui est stable financièrement, c'est-à-dire que l'on ne veut pas de l'artisanat de demain. Et ça a pesé énormément dans la balance. Si on dit oui à un jeune, c'est-à-dire qu'on va continuer le métier et on va le continuer au sein des cours, ce pourquoi ils ont été achetés.
Oui, c'est un pari, un investissement sur l'avenir surtout.
Ah ben complètement.
C'est pour pérenniser effectivement cet artisanat qu'on souhaite garder dans les villes, dans le 11e plus particulièrement, où il a toute sa place, où il a toute son origine et tout son réseau. Mmh. Donc ça a beaucoup de sens effectivement de faire confiance et de transmettre ses locaux, ses emplacements, de donner de la lumière aussi à ces artisans comme vous, comme beaucoup d'autres dans les cours, pour montrer que l'artisanat a pleinement sa place dans les villes et que ce serait dommage qu'il les quitte. Ça fait vivre énormément d'autres artisans dans le quartier, c'est quelque chose qui est important.
Je travaille, le fait, comme l'a évoqué M. Thévenin, d'être dans les cours et d'être à côté de mon ancien patron, c'est que j'ai toujours un regard bienveillant. D'ailleurs, nous travaillons quotidiennement ensemble. Et effectivement, si nous quittons Paris, nos métiers se perdent complètement. Parce que, il faut le dire, la clientèle est principalement parisienne et versaillaise. Comme au 17e et 18e, on n'a quasiment pas changé. Et à partir du moment où on n'est plus dans ces deux villes, notre savoir-faire n'est pas forcément demandé à l'extérieur, parce qu'il existe, mais d'une manière moins raffinée. Et surtout, il existe, mais avec un coût bien inférieur au nôtre. Donc on passe en fait sur autre chose, quasiment, sur d'autres métiers, d'autres techniques, d'autres savoir-faire que nous n'avons pas appris.
Et du coup, vous êtes jeune, vous venez de vous installer il y a quelques années quand même, maintenant déjà, mais quels sont vos projets pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des rêves que vous avez, des projets en cours ou des choses que vous voudriez développer particulièrement?
Disons que je préfère ne pas brûler les étapes. Mmh. Je suis en micro-entreprise, je m'en sors très bien financièrement, j'ai une clientèle... C'est le cas de le dire en or. Hein. Je veux pas brûler les étapes. Je préfère prendre mon temps avant de monter, par exemple, peut-être en société. Okay. Ça serait peut-être envisageable. Mais il faut faire sa place. Il faut se faire connaître. Il faut prouver qu'on a les épaules pour pouvoir monter une société, une structure et pouvoir un petit peu s'agrandir. Ouais, ça serait le projet.
Sur le long terme.
Sur le long terme. Mais comme je dis, avant tout, il faut prouver son savoir-faire. Alors, je suis peut-être bon d'horreur, comme dirait M. Thévenis, mais je m'estime encore assez faible en tant que sculpteur, parce que ça ne fait pas assez d'années que j'ai pratiqué le métier. Il me faut encore quelques années de pratique pour pouvoir être, entre guillemets, en totale autonomie d'autres artisans pour pouvoir mener des chantiers conséquents ou complexes. Pour l'instant, quand c'est des choses compliquées à réaliser en sculpture, je préfère les confier à mes confrères, parce que je travaille que avec de l'excellence, et mon but, ce n'est pas de rendre un bon travail, c'est un travail d'excellence. Un bon artisan, c'est pas celui qui sait tout faire, c'est celui qui sait là où il excelle et là où il n'excellera pas. Il ne faut pas avoir peur de refuser un travail ou au contraire de l'emmener vers quelqu'un qui saura le faire mieux que lui.
Ça permet, je pense, de garder la confiance aussi du client et puis ne pas pécher par orgueil, évidemment.
Oui.
C'est quelque chose qu'on dit souvent aussi pendant la formation. Alors, c'est vrai que le métier de doreur, celui de sculpteur, comme les pratiques Sébastien, sont deux métiers qui sont très complémentaires. Donc, c'est vrai que l'un et l'autre peuvent cohabiter très bien et on peut, je pense, être fort dans les deux domaines. Et c'est tout à son honneur à Sébastien d'être objectif sur son positionnement dans le métier. Mais on est souvent à expliquer qu'on ne peut pas tout faire bien tout le temps, en fait. On forme des ébénistes, on forme des marqueteurs, on forme des sculpteurs sur bois, même si le matériau, des fois, est le même, on a tendance à dire aux élèves, concentrez-vous quand même sur un domaine de prédilection, en répétant, parce que c'est des métiers de répétition, et on l'entend bien, s'il faut 5 à 10 ans pour faire un bon artisan, c'est parce qu'on a pris le temps, justement, de répéter le geste pour qu'il devienne parfait, et on a du mal à être dans une répétition parfaite de trop de disciplines à la fois. Donc, on conseille toujours de se concentrer, effectivement, sur une ou deux spécialités, mais pas beaucoup plus. On ne peut pas être à la fois tapissier, ébéniste et doreur, c'est surréaliste.
Mais c'est vrai que de savoir aussi former son œil, être objectif sur ses capacités, ses connaissances, ses limites, c'est très important pour préserver cette confiance et de l'importance aussi du réseau hein, derrière, de pouvoir confier à des gens de confiance dans d'autres domaines. J'imagine que vous faites souvent des collaborations avec des restaurateurs de tableaux, par exemple, des choses comme
oui,
ça.
Oui.
Et vous avez un réseau aussi à disposition de vos collectionneurs pour les conseiller et les aiguiller là-dessus. Et c'est effectivement très important.
Et quand on est honnête comme ça, je pense que c'est quelque chose, quand les clients l'ont compris, l'ont ressenti, c'est quelque chose qui nous placera de manière bien plus forte et fiable à leurs yeux que de vouloir tout faire et de ne pas réussir à aller au bout.
Est-ce qu'il y avait un autre sujet que vous aviez envie d'aborder ?
Alors, est-ce qu'on fait rêver un peu les gens qui vont écouter ce podcast ? Un des chantiers que vous avez fait récemment, Sébastien, qui a été formidable pour vous, ou une belle expérience comme ça, pour un peu de rêve ?
L'année dernière, l'hôtel de la Marine, par exemple.
Super.
Sur des éléments de décor, des écoinçons, donc des ornements de feuilles d'acanthe rapportés dans le cabinet de Monsieur Thierry de la ville d'Avray pour restituer des décors comme il y aurait pu avoir à l'origine. Ça, c'était voilà, un beau chantier. Après, il y en a eu quelques-uns d'autres pour des galeries, mais dont je n'ai pas le droit, malheureusement, de citer les noms ou les tableaux, des tableaux, oui, effectivement... très précieux qui me passe entre mes mains, ça c'est vraiment superbe et le top du top, j'ai envie de dire, pour moi ce sont les très très gros collectionneurs et marchands d'art, parce que là je vois des œuvres que peu de gens connaissent. Le fantasme du collectionneur, c'est d'avoir un tableau, une œuvre que les musées, que personne au monde ne connaît. Ça c'est le fantasme, et j'ai l'avantage de pouvoir, entre guillemets, mettre un pied dans leur domaine, car ils sont obligés de me faire confiance quand je travaille sur les œuvres. Je ne peux pas travailler sur un cadre et, par exemple, ne pas avoir la toile alors que c'est moi qui fais le montage du tableau. Ou quand il faut faire le montage de l'œuvre chez eux, là, on rentre carrément dans l'intimité, dans la collection des gens. Donc, c'est aussi un domaine qui est très, très plaisant.
Oui, de voir les coulisses
de voir ce qui est abrité, on va dire, du regard du commun des mortels, ce qui est en même temps triste aussi.
Oui, bien sûr, mais au moins quelques privilégiés
privilégiés,
à force de travail, de sueur et d'abnégation, arrivent à accéder à ces objets-là. Et bien, Sébastien, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
Merci.
On a hâte de suivre les nouveaux projets et l'évolution de votre atelier. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Où est-ce qu'on peut vous joindre? Où est-ce qu'on peut voir votre travail?
Alors mon travail, comme je dis, je ne peux quasiment pas le présenter parce que je n'ai pas le droit de divulguer les œuvres sur lesquelles je travaille ou sur les objets que j'ai restaurés parce qu'il y a un droit d'exclusivité pour les galeries. Les seules choses dont j'ai le droit de parler, c'est quand c'est les commandes d'État, justement, comme l'hôtel de la Marine, des choses qui sont rendues publiques et qui appartiennent à la nation.
Mais vous disiez l'atelier, faire venir le client dans l'atelier, c'est souvent gagner aussi la confiance.
La confiance.
Donc on peut venir vous voir à l'atelier quand même, rue de Montreuil.
On peut venir me voir à l'atelier au 37 bis rue de Montreuil, au rez-de-chaussée de la deuxième cour, avec le plus grand des plaisirs.
Eh bien, merci beaucoup de votre temps. Merci Jérôme Tévigny. Et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.